par un argument objectif. Et puisque je parle d'éléments de connaissance objective, voilà encore une des vertus du quinconce, c'est que quand on est sous la trace du quinconce, on est nécessairement objectif. Parce que l'élément subjectif est diminué, on ne peut pas dire réduit à zéro, c'est impossible, mais l'élément subjectif, qui est l'élément fautif d'un autre maître, incontestablement, l'élément subjectif, il est réduit à sa plus simple expression. Nous sommes objectifs, et voilà parce que nous sommes objectifs que nous sommes lucides. On ne peut être lucide que dans la grâce de l'objectivité. Il n'y a pas moyen d'être. La lucidité est une chose qui se paye très cher. Elle se paye très cher. Dont l'amour d'une mère pour son enfant. Chose très belle, incontestable, très nécessaire. L'objectivité ne vient généralement qu'avec beaucoup de temps. Et c'est une âme très sage, une âme de mère qui très vite peut être objective, pas détachée ou non, mais objective, et avoir de la être objectif, mais c'est toujours être capable de perspective sur l'objet de son amour. C'est être capable de perspective sur l'objet de son initiative aussi, de son ambition aussi. C'est perspective, et qui dit perspective dit objectivité. Il est remarquable, si vous ouvrez un ouvrage de chimie, de constater tout de suite que les éléments chimiques sont représentés par des formes géométriques. Par des octaèdres, par exemple. Je lisais récemment dans un dictionnaire que la structure moléculaire, que par exemple, bon non, je ne peux pas prendre ici, je n'ai pas ici les détails, mais enfin, ça, vous verrez dans un livre géométrique les structures hexagonales, octogonales, pyramidales, polygonales, etc. Eh bien, la structure de l'homme, c'est la structure du diamant, et le diamant rejoint le quinconce. Donnons maintenant quelques exemples de ceci. Et j'ai besoin de rappeler ici aux astrologues présents que certains vieux traités d'astrologie trouvent le quinconce en un aspect dit maléfique. Vous hochez la tête. Eh bien, c'est simplement établir la carence absolue de la lucidité de l'expérimentateur. Le quinconce ne peut pas être maléfique, c'est impossible. C'est parce qu'il n'a jamais été compris. C'est parce qu'il n'a jamais été simplement, disons le mot, étudié. C'est parce que l'expérimentateur n'a pas du tout le talent de l'observation clinique. Ne soyez pas astrologue. N'allez pas loin en astrologie si vous n'avez pas le don de l'œil lucide et objectif du clinicien. N'allez pas très loin. Il s'agit d'abord d'épurer un tas de choses en vous-même. Il s'agit d'avoir d'enlever vos chaussures lorsque vous entrez dans le temple de l'astrologie. Ça ne plaisante pas, et nous ne pouvons pas être des bricoleurs là-dedans. Évidemment, nous commençons tous à bricoler. Bien sûr, c'est dans l'ordre. Mais enfin, au bout d'un certain temps, on se rend compte qu'il faudra ou s'arrêter, renoncer, parce qu'on ne peut plus continuer à bricoler là-dedans. Il faut développer des vertus, absolument, des vertus qu'exige le grand don dans l'être humain. Mais si j'ai pu, à ce moment-ci, pour clore à cette partie théorique, avant d'entrer pour un instant dans une démonstration pratique de ça, de maison en maison, et donc de signe en signe, souligner le fait que le trigone, qui est un aspect d'harmonie, et de d'écoulement naturel, et de liaison naturelle, et d'organes unifiés, un champ unifié. On pourrait dire que le trigone est un champ unifié, ça vient à oui. Mais si j'ai pu souligner l'idée nous faire penser que le quinconce de 150 degrés est encore quelque chose que l'on atteint dans sa plénitude qu'après avoir dépassé le trigone. Il ne faut pas commencer par pouvoir avoir le don de servir avec lucidité avant de savoir aimer, mais que le mérite et la récompense de l'amour, c'est d'arriver au don, évidemment, au don de l'aspect de lucidité et de transparence universelle. Parce que très vite vient avec cette idée de la transparence, l'idée « je peux tout comprendre ». Et par conséquent, tout savoir. Donc il y a là une plénitude. Imaginez-vous un instant, amusez-vous un instant à vous imaginer l'univers en transparence. Imaginez-vous que tout est en verre. Tout en verre, en verre, en verre, en verre. Le verre est une chose extraordinaire. J'ai entendu un grand physicien américain il y a une dizaine d'années déclarer à une conférence. Qui n'avait encore pas compris ce que c'était la composition. Comment le verre pouvait faire la transparence? Qu'est-ce que c'était que la transparence? Imaginez que vous êtes transparent dans le sens ordinaire du terme, comme le verre. Imaginez que tout l'est, l'arbre, le mur, ça nous changerait un petit peu notre sentiment de solitude, n'est-ce pas? Ça changerait beaucoup de choses en nous. Eh bien, il y a une certaine transparence que nous avons à des moments d'inspiration. À tous, il nous est donné d'être par moments cet aspect de quinconce. Et nous percevons à ces moments-là ce qu'il se cache derrière ce travail laborieux de l'évolution. Et que l'évolution a une formule mathématique précise. Et c'est vraiment dans le symbolisme, le système de signalisation astrologique, que nous en avons le dernier mot. Permettez-moi de m'asseoir. Maintenant, je vais prendre quelques aspects avant de clore ce soir. Donc, nous disons, je prends conscience de moi-même, j'agis, j'entre en action. J'entre en action par le seul fait que j'accepte d'être réveillé. J'entre en action. C'est donc le béier en nous. Nous sortons d'une inertie relative. Nous entrons dans une certaine accélération de nous-mêmes. Et c'est là l'euphorie du moi, de l'ego, qui se sent un peu là, comme on dit. Je suis là, je suis présent, c'est l'acte de présence à la vie. Je suis présent. Bon. Et puis, si nous faisons maintenant le mouvement de ça vers la deuxième maison astrologique, 30 degrés plus loin, nous arrivons à une notion secondaire, qui suit celle-ci, et dont celle-ci est la base indispensable, nous arrivons à la notion « je possède ». J'ai quelque chose. À côté de ce que je suis, j'ai. Ouais, le verbe avoir, c'est un verbe phénoménal. Avouons-le. L'être, nous sommes l'être. D'accord, nous sommes l'être. Alors, mon Dieu, c'est une sorte d'auto-évidence, l'être. On n'a même pas besoin de se prouver qu'on est, on est. On n'a même pas besoin de penser comme Pascal, je pense, donc je suis. Mais Pascal est allé trouver la troisième maison astrologique. Il a trouvé les Gémeaux, lui. Il n'a pas dit, j'ai un capital, je possède quelque chose, donc je suis. Non, il a dit, je pense, donc je suis. Il a utilisé la troisième signe astrologique, le troisième signe qui est celui des Gémeaux. Il a dit, je pense, donc je suis. Et d'autres disent, je sens, donc je suis. Alors ça, c'est la quatrième maison astrologique, c'est le Cancer. Et j'aime, donc je suis. C'est le Lion, ça, c'est la cinquième. Et combien de gens, naturellement, ont besoin de se sentir aimés et rayonnés, et alors vraiment, attention, de dire se donner, mais attention, se donner est un terme qui est encore dans la nation. Combien de fois ils ont le besoin de se donner, mais enfin surtout de rayonner, et de s'aimer eux-mêmes dans les autres, avant d'arriver au point où ils peuvent aimer les autres en eux-mêmes. La balance, c'est toute l'opération, la septième maison, le 180 degrés du premier degré, c'est tout le mystère de l'opération par laquelle, commençant à nous aimer dans les autres, premier plateau de la balance, nous finissons par aimer les autres en nous-mêmes. C'est là l'exaltation de Saturne dans la balance. Et c'est dans la mesure où nous avons découvert que nous pouvons aimer les autres en nous-mêmes, et non pas nous dans les autres. Le requin, il aime les, il s'aime dans les autres, incontestable. Il prend le requin pour la forme extrême de cette formule. Et quand, dans la mesure où nous arrivons à aimer les autres en nous-mêmes, c'est là que nous abordons très vite maintenant l'idée du service et du quinconce. Alors, je aime. Première maison, cinquième maison, voilà le trigone de feu. Voilà la grande géométrie du trigone de feu. J'aime. Et ensuite, nous arrivons au 150 degrés. Ah, je sers. Ah, je sers. Je sais à quoi je sers. Voilà. Enfin, j'ai trouvé à quoi je sers, à quoi je suis utile. Et donc, toutes les techniques, tous les travaux de technique, toute la technicité que l'élève apprend à l'école et surtout dans les écoles supérieures, c'est toujours une question avant tout. Ce n'est pas seulement pour gagner sa vie. Oh non, non. Et la société elle-même est aussi en train de suivre un jeu de géométrie très précis à sa façon, si on sait y voir, et que vous êtes placé dans les obligations d'études, études extrêmement prononcées, si vous en êtes capable, mais c'est toujours avec l'idée essentiellement de pouvoir servir la société, ou servir le monde, ou servir. Et devenir un expert dans quelque chose n'est pas pour gagner de l'argent, pour commencer. Vous pouvez le croire, mais la société pense autrement. La société est beaucoup plus dans la vérité qu'elle s'en doute elle-même. Vous pouvez vous servir de votre technique qui est une chose de sixième maison, c'est-à-dire le travail, car le travail, mon Dieu, c'est le salut. On ne perd jamais sa tête en travaillant. Eh bien, le travail, vous pouvez utiliser ce travail comme une sorte d'amour que vous portez à vos ambitions. Ah, vous faites travailler votre sixième maison pour votre dixième, vos ambitions, vos aspirations, mais surtout vos ambitions. La façon dont vous pouvez marquer votre position dans le monde, dans la société. Mais comme nous voyons bien ici que le travail, lui, il veut bien aimer vous porter dans le monde. D'autre part, lui, il va servir le Verseau. Il va servir la 11e maison astrologique. Il va servir le monde des frères et sœurs en Dieu. De vos frères et sœurs en Dieu. Alors, il sert ça. Et toutes vos techniques, essentiellement, toutes vos techniques, quand tout est décanté, derrière le petit jeu de la marionnette humaine, toutes les techniques que l'homme apprend, c'est en définitive pour découvrir qu'il sert ses frères et sœurs en Dieu. Car ça, c'est le centre de la 11e maison astrologique, c'est le centre du Verseau, et le maître de ça, c'est précisément l'Uranus du Père. Regardez, lorsque vous avez dans votre thème le maître, qu'on appelle la planète maîtresse de la première maison, du moi, du je, dans la maison 6. Et si par surcroît vous avez encore le maître de la dixième maison en maison 6, ou enfin que vous ayez l'un ou l'autre, prenons le maître de la première maison, je. Comment est-ce que je suis conscient de moi-même? Et par la puissance, par cette force vitale en moi qui s'appelle une planète de maison 6. Donc l'angle, L'angle par lequel je peux être conscient de moi-même ne peut être que l'angle du serviteur, comprenez-vous? Ou l'angle du travail. Ou l'angle de la fonction. De la fonction d'un serviteur qui n'est pas nécessairement d'un esclave, à moins que Pluton se trouve en sixième maison. Car immédiatement, Pluton en sixième maison signifie qu'on passe du service à la servitude. Et que tout se passe comme si on avait à découvrir beaucoup de choses par la servitude pour comprendre la différence entre être un serviteur et un esclave. Alors là où est Pluton, il va toujours avoir une formidable leçon qui met en relief le côté négatif et le côté positif d'une fonction. Regardez, je prends encore un ou deux exemples. Regardez dans mon cas, parce que dans mon cas, j'en parle alors à mon aise, c'est très frappant. Regardez chez moi la troisième maison. La troisième maison, je l'ai dit, c'est dont nous le savons tous, la troisième maison, c'est la maison où se métamorphose la huitième, puisqu'elle est huitième de la huit. Et chez moi, le sens, l'image, toute subjective essentiellement, que pendant des années et tour à tour, je me suis fait de la mort, qui est la huitième maison, la mort de mon ego. La mort de cette conscience qui est faite pour s'étendre dans l'incarnation exclusivement, voyant que celle-ci allait être carrément raccourcie dans la huitième maison par ce qu'on appelle la mort, j'ai naturellement conçu la mort comme une chose extraordinairement catastrophique. Longtemps. Or, la métamorphose est venue par la réflexion, le travail de troisième maison. Et le travail de la troisième maison, la pensée, est celle qui sert la métamorphose. C'est la 3 qui sert la 8. Si la 3 oblige la métamorphose de la 8, d'autre part, elle sert la maison 8, celle qu'elle va travailler à métamorphoser. Le lien entre cette huitième maison de 8 et sixième de 6, tout le tour de la croix, tout le tour du cercle. C'est formidable de voir ça. Et voyez chez moi, la 3, elle a littéralement décapité le fantôme qui vivait dans ma huitième maison. La 3 l'a décapité. Ce fantôme, comment voulez-vous qu'il serve, lui, le scorpion servant le bélier? Comment voulez-vous qu'il serve mon ego? Pouvais-je compter sur l'aide des éléments de huitième maison pour ma première maison? Mais non. Mais le moment où la 3 a décapité ce fantôme de 8 et qu'il s'est mis à servir cette huitième maison très bien, ma huitième maison a commencé à servir ma première maison. Et si vous voulez bien savoir le détail exact de la raison, la formule pour laquelle je suis à Paris, que je suis dans l'astrologie jusqu'au cou, que j'y suis, je crois, pour le reste de mes jours, que je lui donne le meilleur de moi-même, c'est que précisément ma troisième maison, ma pensée, mon laboratoire mental sert tout le temps le monde de ma propre métamorphose. Et par conséquent, comprenant cela pour moi-même, par analogie, je le comprends dans les autres. Et qu'au fond, quand j'y regarde très près, la leçon essentielle que je cherche à passer à ceux avec qui j'ai le privilège d'être en contact, la leçon essentielle, ce n'est pas en soi une leçon de religion, proprement dit, comme neuvième maison, c'est de leur faire toucher et de leur faire vivre le sens profond de la huitième maison, c'est-à-dire cette maison de la métamorphose, de la transformation. Comment ça se fait, cette transformation? Donc, à un certain moment donné, pris dans un certain angle, nous avons une peur horrible, puisque nous appelons ça la mort de notre ego, la mort de l'homme, la mort physique. C'est cette huitième maison qui m'obsède toujours, et jamais je n'aurai de cesse de de continuer à l'explorer, parce que la clé dans toutes les affaires, ici il faut le dire, la clé de nos métaphysiques, la clé de toutes choses dépend dans notre capacité de métamorphose. Toutes les métaphysiques, toutes les religions, toutes les dogmatiques sont fonction de nos métamorphoses. Par conséquent, le laboratoire de la métamorphose, c'est la huitième. Et se servir de la troisième maison qui est la pensée, pour qu'elle puisse aider tout le temps, objectivement, aider cet objectif, n'est-ce pas? Qu'elle puisse aider cette huitième, c'est vraiment faire avancer le progrès de ce pauvre cœur humain, de ce pauvre aveugle frissonnant qu'est l'homme sur la surface du globe. Je prends encore un exemple et je m'arrête. Le lion, le poisson. Et donc c'est la cinquième maison. C'est votre soleil, c'est votre individualité elle-même, c'est cette essence en vous-même, indivisible et impartageable, à laquelle va s'ajouter, arrêtons, je n'insiste pas sur le soleil, c'est un monde, ça. Alors, ici, c'est la cinquième maison, c'est ce qu'on appelle la vie du cœur. C'est la façon dont vous pouvez jouir de tout. Jouir, parce qu'il y a un écoulement ici. On voit bien quand Saturne est en cinquième maison, à quel point la satisfaction, la jouissance, l'expansion de l'ego est brisée, elle est retenue de la frustration par excellence. Ça, c'est le conditionnement en tout cas. Bon, eh bien, cela, il allonge la vie de notre cœur. De notre cœur, oh, mais attention! C'est le cœur très personnel. C'est le cœur de l'ego, c'est très personnel. À quel point cela peut être passe par une métamorphose lorsque ça arrive en maison 12, qui est sa huitième. Comme dans la perspective du fond de votre âme, lorsque vous reprenez conscience que vous êtes une âme, et que cette âme réclame des choses de vous, et que vous comparez la vie de votre âme et son diapason à la vie de cette espèce de d'amour qui est votre façon d'aimer votre objet, et particulièrement surtout l'objet personnel qui est en face de lui. Comment à ce moment-là vous pouvez vous dire, oui, quelle différence il y a entre ce que le monde, le climat dans lequel je vis dans le fond de moi-même et ça, et alors, eh bien évidemment, il faut que j'aligne ça au climat de mon âme. Il faut que ça, ce n'est pas à la hauteur du climat de mon âme. Mon âme mérite mieux que ça, mon âme vaut mieux que ça. Je m'abaisse quand j'aime. D'une certaine façon. Et oui, c'est toujours obligatoire. C'est toujours naturel. Mais il y a la façon. Or, le critère de la façon, le diapason de la façon, c'est la deuxième. Et ça me tient. Or, elle-même, cette maison de notre âme, notre fort intérieur, elle sert le cœur, elle va le servir. Et quand votre âme est en paix, et quand elle est riche, quel regard ne sentez-vous pas que vous portez sur la vie de votre cœur? Quel regard lucide, amusé même, sur la vie de votre cœur? Et quelle libération il y a dans ce sourire de votre âme? Est-ce que je me fais comprendre? C'est tout un sujet. Et je crois qu'il faut que je m'arrête là. Je pourrais continuer parce qu'il y en a encore quelques-unes d'autres maisons. Mais vous pouvez, dans la méditation de la nuit, vous n'avez pas de quoi vous embêter quand vous êtes seul chez vous. Vous pouvez, dans le silence de la nuit, ou une après-midi de pluie, les dames qui ont l'avantage de la couture et du tricot, elles peuvent faire ça en tricotant. Et réfléchir à la sixième de toutes les maisons, des 12 maisons des trois axes. La cardinale, la croix cardinale sert. Elle sert la mutable. Regardez que le cancer sert le sagittaire, c'est la croix cardinale. Elle sert la mutable qui est le Sagittaire, comme le Bélier sert la Vierge qui est la mutable. La fixe, la croix fixe. La croix fixe, donc le Lion. C'est le Lion, c'est le Verseau. Le Lion, il sert la cardinale. La fixe sert le Capricorne. Et la mutable, à son tour, sert la fixe. Et ainsi, on voit que ces axes prodigieux, les axes prodigieux, ces trois axes de la vie, qui nous lient par analogie à tout le monde de la Lune, qui nous lient par analogie à tout le monde du Soleil, et qui nous lient par analogie à tout le monde au-delà du Soleil, qui est vraiment le monde pour nous. Voilà, je m'arrête là ce soir. Mais, si je suis tout prêt à répondre à deux ou trois questions, si elles sont pertinentes dans le sujet. Pardon, madame.
L'ordre exact.
D'un quinconce, eh bien, j'avoue franchement moi-même que si je suis assez sûr d'être exact dans l'ordre des carrés et des trigones et des sextiles, le sextile n'est jamais plus de 8 degrés, mais on peut et on doit aller jusqu'à 10 degrés. J'avoue que sur le quinconce, je ne suis pas encore au clair, je n'ai pas vraiment obtenu paix. Je n'ai pas pu prendre le temps de faire les vérifications sûres, mais je dirais certainement qu'on peut aller jusqu'à 100 degrés. C'est logique. Parce qu'il faut bien vous imaginer que lorsque vous pensez à l'aspect, est-ce que vous comprenez bien, vous autres astronomes, lorsque vous faites vos aspects, vous ne pouvez pas penser à ça, comment dirais-je, comme d'une façon livresque, n'est-ce pas? Il faut bien vous placer au centre de la croix. Placez-vous au centre de la croix. Et vous dites, maintenant, voici une force qui est là. Sur l'horizon, elle est là. Et elle joue dans tel plan. Et elle appelle dans tel plan. Et on peut s'en servir à condition d'aller la chercher, là. Et c'est ça pourquoi la maison est si importante au sud de la planète. Il faut la chercher où elle est. On ne va pas chercher Jupiter en 3 quand il est en 9. Et que l'autre planète se trouve à 100, disons ici, 155 degrés ou 145 degrés, n'est-ce pas? Sentez au fond de vous-même l'éventail que ça représente. Sentez l'éventail que ça représente dans la conscience qui porte ça. C'est la conscience qui porte. Vous avez l'éventail de 60 degrés. C'est la conscience qui porte. Vous avez l'éventail de 90 degrés. Ah ben celui-là, vous le sentez bien. Ce n'est pas seulement un éventail, c'est une inclinaison. On peut parler de pas d'inclinaison dans les trigones, mais le carré, c'est toujours une inclinaison. C'est toujours un escaladage. Alors, sentez ça. La raison pour laquelle le sextile, alors ça c'est tout à fait la clé la plus élémentaire, pourquoi le sextile est-il valable jusqu'à 8 degrés d'orbe? En comptant bien que plus l'orbe s'élargit, moins ça a de valeur, moins ça a de force. C'est tout simplement ceci. C'est que si vous vous amusez à faire transiter l'une de ces deux planètes en carré de l'autre, vous voyez ce que j'entends, vous suivez tous les astrologues ici, vous suivez le mouvement, en carré de l'autre, à 90 degrés de celle-là, à 90 degrés de l'autre, jusqu'à 8 degrés, l'autre filera avec elle et tout le sextile bouge ensemble. Tout le sextile se meut comme un ensemble de musique. Mais que si la planète est à 9 degrés d'orbe, ça ne fait plus. Est-ce que vous suivez le raisonnement, Madame Duhautoy? Vous pouvez voir le jeu de ça.
Là, vous avez dit, M. Duguay,
comment?
Sur deux planètes, il y a 210 degrés.
Oui, oui. L'autre jour, j'ai dit ça.
Donc, c'est la majeure travail pour la mineure.
Non, je n'ai pas dit qu'elle travaille pour la mineure. J'ai dit qu'elle la métamorphose.
Elle travaille pour l'évolution sexuelle.
Ah ben, elle travaille pour sa métamorphose.
Oui. Mais à ce moment-là, elle se trouve à 150 degrés.
Elle se trouve à 150 degrés.
Alors elle est à 210 degrés.
Eh bien, voilà, c'est qu'elle fait les deux choses à la fois. C'est ça que je voulais dire ce soir aussi. C'est que d'une part, celui qui sert la métamorphose est encore celui qui va se charger de l'imposer. Donc il y a un rapport extrait, il va se charger de l'imposer. On va en permettre la possibilité. Et c'est ça la beauté du rapport entre le 210 degrés et le 150 degrés. Voilà. Oui, voilà, voilà. Cette question est très pertinente. Une autre question.
Mais quand une planète progressée en 5 ans,
parlez plus fort,
une planète progressée arrive en 5 ans à une planète, est-ce que ça a la même valeur que le Soleil?
Lorsqu'une planète progressée arrive
en 5 ans à une planète majeure.
Madame, ça va dépendre d'abord de l'aspect radical que ces deux planètes ont l'une par rapport à l'autre. Ça, vous savez bien, c'est le premier. Il est certain qu'un élément, naturellement, de cette valeur du quinconce va entrer en jeu pour la durée de cette progression. Oui. Il y a évidemment, cette planète, tout d'un coup, se mettra à servir celle dont elle fait le quinconce, dans le sens de le contraire à l'aiguille d'une montre. Le sens de l'aiguille d'une montre, c'est une autre opération. Pardon, madame? Le signe cardinal, madame. Le signe cardinal, c'est le signe, il y en a quatre. Les signes sont par quatre. Ce qui est représenté ici, surtout dans la géométrie du trigone, et du trigone équilatéral, le triangle équilatéral, qui représente un parfait amour, où tout se lie avec tout dans un accord parfait, dans une harmonie sans une résistance, où organiquement les choses sont tellement liées qu'elles ne font qu'un. Mais dès que cela est partiellement vécu, quelque chose pousse en nous au-delà de ça. Et c'est quelque chose de plus, c'est l'appel et le moyen, la capacité de servir. D'aider, non pas sentimentalement, d'aider. Il est incontestable. Il est incontestable que dans le sentiment que nous avons de vouloir être utile, le mot utile est un mot formidable, un poids utile, le travail utile d'une machine, par exemple. Ce mot utile, l'utilité, mais c'est un mot formidable et merveilleux. Nous voulons être utiles, nous ne voulons pas seulement être, nous ne voulons pas seulement être aimés, nous voulons être utiles, pensez-nous à ça. Et donc dans l'univers, une des nécessités de la géométrie même de la vie, qui fait la géométrie même de la vie, qui représente ici les 12 commandements de Dieu, cette géométrie de la vie qui impose la notion, elle n'impose rien. Elle vous donne aussi les moyens, parce qu'on n'impose rien, il n'y a pas d'imposition, c'est le jeu, le roulement naturel de l'évolution de toute chose, c'est l'intention de l'univers. Par conséquent, arriver à être, à vouloir être utile et à devenir utile à quelque chose ou à quelqu'un, parce que quelqu'un est justement ici. Le mot « quelqu'un » est très significatif. Vous allez constater que vous avez constaté, ce soir, vous allez simplement y repenser un instant, peut-être utile à quelqu'un. C'est naturellement faire l'expérience d'un état de conscience qui n'est pas douloureux, qui est libéré de toute douleur, libéré aussi de toute servitude, attention. Servir n'est pas être esclave, attention. Le mouvement est un mouvement en presque créateur à sa façon. Le mouvement, c'est une générosité, c'est entendu. Toute cette générosité, encore faut-il avoir les moyens intérieurs dans sa nature de l'avoir, la générosité. Mais remarquez que tant que nous en sommes encore au grand triangle équilatéral de l'amour, sans parler des quadratures, sans parler des oppositions, remarquez simplement ceci, que l'aspect essentiel qui nous permet d'être impersonnel, mais quelle difficulté nous avons pour devenir impersonnel. Impersonnel qui ne veut pas dire détaché. Je déteste les préfixes négatifs. Je n'aime pas le mot impersonnel. Je préfère le mot transpersonnel, T-R-A-N-S-P-R. Transpersonnel, au-delà de la personne. Je déteste les gens qui sont détachés. Pour moi, ça n'existe pas d'être détaché. On ne se détache de rien en réalité. On dépasse. On dépasse. Et une psychologie qui parle de détachement est pour moi une chose qui ne sait pas le sens des mots que je dis. C'est une forme uniquement en réalité de dessèchement. Ah oui, voilà, pour se dessécher, c'est une autre histoire. Mais ne perdons pas notre temps. Nous n'avons pas de temps à perdre une seconde. Constatons que lorsque nous nous sentons utiles, nous avons une tête sur nos épaules. Que nous avons notre tête mieux à ce moment-là et pour plus longtemps que dans n'importe quel autre moment, autre phase de notre vie. Nous ne perdons jamais notre tête lorsque nous servons utilement. Soit un objet, soit une cause. Servir un objet, c'est ce qu'on appelle le travail. C'est le travail courant que servir l'objet. L'horloger suisse, il sert son objet et il le sert. Ben oui, il le sert et il a la vocation de la chose. Mais quand nous servons une personne, nous servons une cause, nous servons un idéal, quand c'est lui seul et c'est le quinconsole qui joue, nous perdons jamais la tête. Dès qu'on perd la tête, la passion humaine entre en jeu. À ce moment-là, ce ne sont pas les quinconces qui jouent. À partir de ce moment-là, c'est mêlé d'autres aspects géométriques qui traduisent encore des mouvements d'ébullition, des tâtonnements, des recherches, enfin, toute espèce de choses qui sont en dessous encore du palier de l'aspect du quinconce. C'est là une des plus grandes satisfactions et privilèges personnels, c'est que le 150 degrés nous assure de ne pas perdre la tête et au contraire d'être beaucoup plus lucide qu'on ne l'a jamais été sur n'importe quel plan, sur n'importe quel plan. C'est un aspect qui mélange l'élément féminin de notre nature à l'élément masculin de notre nature, parce que le quinconce se fait toujours d'un signe de masculin à un signe féminin, ou d'un signe féminin à un signe masculin, c'est toujours cette combinaison-là. Et dès que la combinaison du masculin de notre nature et du féminin de notre nature est équilibrée, nous disposons d'un regard, d'un droit de regard, en profondeur sur les objets, sur les situations, qui nous est interdit naturellement si nous sommes seulement ou masculins ou féminins. Il faut les deux. Géométriquement, il nous faut les deux. Le quinconce. Nous en trouvons souvent dans les thèmes. Mais plus il est exact, plus il est évidemment efficient. Je vous invite à analyser les quinconces dans vos thèmes. J'en ai deux, moi, qui sont fameux. Je vous invite, vous, les praticiens ici d'astrologie, de trouver des satisfactions innées qui auront des répercussions dans vos natures innées. Si vous voulez suivre le transit de la planète qui fait quinconce à l'autre, car c'est l'une qui fait quinconce à l'autre, n'est-ce pas? Puisque tout ça, c'est l'énergétique qui va dans le sens contraire à l'aiguille d'une montre. Il faut par conséquent qu'une planète qui se trouve à 17 du taureau et une autre qui se trouve à 17 de la balance, ça fait le quinconce exact, n'est-ce pas? Il faut que celle qui est dans le taureau serve celle qui est dans la balance et non pas celle dans la balance servir le taureau. Toute l'interprétation de la signification des aspects astrologiques se fait dans le sens contraire à l'aiguille d'une montre. Pour autant que nous nous occupons ici du monde qui est en perpétuelle incarnation, c'est-à-dire le monde mesurable, le monde externe à nous-mêmes, le monde dans lequel nous nous externons et qui s'externe sur nous-mêmes et qui crée là des relations, donc mesurables, par conséquent, soumise très naturellement à cette science merveilleuse de l'intelligence qui s'appelle la mathématique, qui est une science impersonnelle par excellence. Quand, dans mon propre thème, j'ai Vénus 17 taureaux, j'ai Uranus 17 balance, eh bien, quand la progression, alors ce n'est pas le transit, va de soi que le transit fera ça, mais quand la progression de Vénus est arrivée à 17 du cancer, elle est arrivée en quadrature, en carré exact de mon Uranus, n'est-ce pas? Alors, à ce moment-là, Uranus a tout réclamé de ma Vénus. Alors là, mon cœur, Vénus, appelons ça mon cœur, la puissance d'attache, ce qui me donne le bonheur d'échange avec la vie et de fusion avec les autres objets de la vie, ce qu'on appelle la planète qui donne le bonheur. Le mot bonheur est un mot qui demande tant de définitions. Mais sur le plan général humain, c'est ça. Eh bien, elle a senti où elle avait ce qu'elle devait servir. Elle a trouvé sa vocation. Et alors, il y a eu un virement positif, sur le domaine uranien de ma nature, avec tout ce qu'il avait à exiger de ma Vénus, et d'autre part, à faire avec elle pour l'ensemble de mon thème. J'en ai un autre. J'ai un Jupiter de 3 du Capricorne, exactement quinconce un Neptune 3 Gémeaux. Malheureusement, façon de parler, mon Jupiter est en rétrograde toute ma vie, ou presque toute ma vie, il n'est pas venu à me faire faire une fois, d'ailleurs il est beaucoup plus lent, et sa progression même en direct, elle n'aurait jamais atteint le troisième degré du poisson pour me faire la quadrature à Neptune. C'eût été trop beau. Ça n'existe pas dans une vie, une chose pareille. Simplement, le quinconce, ceux d'entre vous qui sont assez âgés pour avoir une progression d'une planète mineure sur la planète majeure, car il faut qu'ici l'aspect soit d'une majeure. Assurément, vous pourrez me dire, mais supposons que Vénus fut 17 balances, et que l'Uranus fut 17 taureaux, qu'est-ce qui se serait passé? Ah, pour commencer, le thème nous dirait Uranus sert Vénus. Ça, c'est réglé. C'est réglé. Nous n'avons pas maintenant commencé à parler de nouveau de ce que c'est que la puissance uranienne, n'est-ce pas? De ce qu'il représente. Non. C'est un monde, n'est-ce pas? C'est un monde merveilleux. C'est le génie de l'homme, naturellement. C'est la crème de toute la race, ça. Bon, en chacun de nous. Bon, mais alors il sert le cœur. Dans ces conditions, il servirait le cœur. Il faut pas qu'il, on ne peut pas dire qu'il l'aime. C'est plus que ça. Car on ne peut pas servir avant d'aimer. D'abord on aime, ensuite on sert. Dans les facultés essentielles d'aimer et de servir, il se trouve que servir est une récompense maintenant qui vient de la vie du cœur. Le trigone est dépassé dans le quinconce. Dans un instant, en parlant un instant de la loi de cristallisation de l'âme, qui se développe comme un cristal, et selon les lois de la cristallisation, l'astrologie n'est pas autre chose que ça, nous verrons que le quinconce représente l'aspect du diamant que l'âme humaine est appelée à devenir un diamant. Un diamant. Il passe du carbone ordinaire, du charbon ordinaire, et montant par toute la voie que lui impose les lois ou la loi de cristallisation, l'élément étant là, la réalité de la cristallisation, la géométrie éternelle du cristal, antérieure à sa forme manifeste, l'élément étant là, la loi s'en empare, la structure interne, la fameuse idée de Platon, elle s'empare des éléments et elle le transforme graduellement en un cristal. Nous sommes un élément. Notre thème est un cristal en travail aboutissant un jour au diamant. Voilà. Je vous lance ça comme un sujet de méditation. Ça vous prendra beaucoup de temps peut-être de vous rendre compte que nous sommes en train de nous développer exactement selon les mêmes lois que les lois qui développent les cristaux. Le symbolisme du cristal est une chose absolument différente. Voulez-vous ouvrir la fenêtre ? C'est un peu trop chaud. Oui, vous avez raison. Je rappelle que la quadrature, ce qui est appelé le carré, ça c'est une construction géométrique qui impose une émergence. Parce qu'il s'agit ici de niveaux différents. C'est le fameux pas, c'est le fameux escalier, c'est le fameux échelon. La quadrature n'est pas autre chose qu'un échelon. Elle n'est pas autre chose qu'un un escalier qui a un décalage de niveau. Et qu'il faut passer d'un plan à l'autre. Voilà le carré. C'est ça le carré. C'est pas autre chose que ça le carré. Donc, dans l'effort, c'est ça qui nous a donné nos muscles, par exemple. C'est ça qui nous a donné ce qu'on appelle notre caractère. Le caractère, c'est quelque chose qui est fait par cette chose en nous-mêmes qui sent tout le temps qu'elle veut, qu'elle doit passer d'un plan à un autre et qui ne peut pas s'attarder longtemps dans un plan quelconque. C'est le calvaire, ça. C'est le principe du calvaire. Le calvaire est une fonction, est une formule géométrique comme une autre. Il n'y a pas une chose dans le Nouveau Testament qui ne soit selon sa formule géométrique. Dieu géométrise. La géométrie, c'est le mot final, si l'on veut, pour l'intellect humain, de toutes les situations imaginables par lesquelles passe la nature humaine. Qui est représenté ici surtout dans la géométrie du trigone et du trigone équilatéral, le triangle équilatéral, qui représente un parfait amour où tout se lie avec tout dans un accord parfait, dans une harmonie sans une résistance, où organiquement les choses sont tellement liées qu'elles ne font qu'un. Mais dès que cela est partiellement vécu, quelque chose pousse en nous au-delà de ça. Et ce quelque chose de plus, c'est l'appel, c'est le moyen, la capacité de servir. d'aider, non pas sentimentalement, d'aider. Il est incontestable. Il est incontestable que dans le sentiment que nous avons de vouloir être utile, le mot utile est un mot formidable. Un poids utile, le travail utile d'une machine, par exemple. Ce mot utile, l'utilité, mais c'est un mot formidable et merveilleux. Nous voulons être utiles, nous ne voulons pas seulement être. Nous ne voulons pas seulement être aimés, nous voulons être utiles. C'est donc dans l'univers une des nécessités de la géométrie même de la vie. Qui fait la géométrie même de la vie, qui représente ici les 12 commandements de Dieu. Cette géométrie de la vie qui impose la notion, elle n'impose rien. Elle vous donne aussi les moyens, parce qu'on n'impose rien, il n'y a pas d'imposition. C'est le jeu, le roulement naturel de l'évolution de toutes choses. C'est l'intention de l'univers. Par conséquent, arriver à être, à vouloir être utile et à devenir à quelque chose ou à quelqu'un. Parce que quelqu'un est justement ici, le mot quelqu'un est très significatif. Vous allez constater que vous avez constaté, ce soir vous allez simplement y repenser un instant, que d'être utile à quelqu'un, c'est naturellement faire l'expérience d'un état de conscience qui n'est pas douloureux, qui est libéré de toute douleur, libéré aussi de toute servitude, attention. Servir n'est pas être esclave, attention. Le mouvement est un mouvement en presque créateur à sa façon. Le mouvement, c'est une générosité, c'est entendu. Cette générosité, encore faut-il avoir les moyens intérieurs dans sa nature de l'avoir, la générosité. Mais remarquez que tant que nous en sommes encore au grand triangle équilatéral de l'amour, sans parler des quadratures, sans parler des oppositions, remarquez simplement ceci, que l'aspect essentiel qui nous permet d'être impersonnel, mais quelles difficultés nous avons pour devenir impersonnel. Impersonnel qui ne veut pas dire détaché. Je déteste les préfixes négatifs. Je n'aime pas le mot impersonnel. Je préfère le mot transpersonnel. T-R-A-N-S-P-R. Transpersonnel, au-delà de la personne. Je déteste les gens qui sont détachés. Pour moi, ça n'existe pas d'être détaché. On ne se détache de rien en réalité. On dépasse. On dépasse. Et une psychologie qui parle de détachement est pour moi une chose qui ne sait pas le sens des mots. C'est une forme uniquement en réalité de dessèchement. Ah oui, oh là, pour se dessécher, c'est une autre histoire. Mais ne perdons pas notre temps. Nous n'avons pas de temps à perdre une seconde. Constatons que lorsque nous nous sentons utiles, nous avons une tête sur nos épaules, que nous avons notre tête mieux à ce moment-là et pour plus longtemps que dans n'importe quel autre moment, autre phase de notre vie. Nous ne perdons jamais notre tête lorsque nous servons utilement. Soit un objet, soit une cause. Servir un objet, c'est ce qu'on appelle le travail. C'est le travail courant que servir l'objet. L'horloger suisse, il sert son objet et il le sert. Et oui, il le sert et il a la vocation de la chose. Mais quand nous servons une personne, nous servons une cause, nous servons un idéal, quand c'est lui seul et c'est le quinconsole qui joue, nous perdons jamais la tête. Dès qu'on perd la tête, la passion humaine entre en jeu. À ce moment-là, ce ne sont pas les quinconces qui jouent. À partir de ce moment-là, c'est mêlé d'autres aspects géométriques qui traduisent encore des mouvements d'ébullition, des tâtonnements, des recherches, enfin, toute espèce de choses qui sont en dessous encore du palier de l'aspect du inconscient. C'est là une des plus grandes satisfactions et privilèges personnels, c'est que le 150 degrés nous assure de ne pas perdre la tête et au contraire d'être beaucoup plus lucide. On ne l'a jamais été sur n'importe quel plan, sur n'importe quel plan. C'est un aspect qui mélange l'élément féminin de notre nature à l'élément masculin de notre nature, parce que le quinconce se fait toujours d'un signe de masculin à un signe féminin ou d'un signe féminin à un signe masculin. C'est toujours cette combinaison-là. Et dès que la combinaison du masculin de notre nature et du féminin de notre nature est équilibrée, nous disposons d'un regard, d'un droit de regard en profondeur sur les objets, sur les situations, qui nous est interdit naturellement si nous sommes seulement ou masculins ou féminins. Il faut les deux. Géométriquement, il nous faut les deux. Le quinconce. Nous en trouvons souvent dans les thèmes. Mais plus il est exact, plus il est évidemment efficient. Je vous invite à analyser les quinconces dans vos thèmes. J'en ai deux, moi, qui sont fameux. Je vous invite, vous, les praticiens ici d'astrologie, de trouver des satisfactions innées qui auront des répercussions dans vos natures innées. Si vous voulez suivre le transit de la planète qui fait quinconce à l'autre, car c'est l'une qui fait quinconce à l'autre, n'est-ce pas? Puisque tout ça, c'est l'énergétique qui va dans le sens contraire à l'aiguille d'une montre. Il faut par conséquent qu'une planète qui se trouve à 17 du taureau et une autre qui se trouve à 17 de la balance, ça fait le quinconce exact, n'est-ce pas? Il faut que celle qui est dans le taureau serve celle qui est dans la balance et non pas celle dans la balance servir le taureau. Toute l'interprétation de la signification des aspects astrologiques se fait dans le sens contraire à l'aiguille d'une montre. Pour autant que nous nous occupons ici du monde qui est en perpétuelle incarnation, c'est-à-dire le monde mesurable, le monde externe à nous-mêmes, le monde dans lequel nous nous externons et qui s'externe sur nous-mêmes et qui crée là des relations, donc mesurables, par conséquent soumises très naturellement à cette science merveilleuse de l'intelligence qui s'appelle la mathématique, qui est une science impersonnelle par excellence. Quand, dans mon propre thème, j'ai Vénus 17 taureaux, j'ai Uranus 17 balance, eh bien, quand la progression, alors ce n'est pas le transit, va de soi que le transit fera ça, mais quand la progression de Vénus est arrivée à 17 du cancer, elle est arrivée en quadrature, en carré exact de mon Uranus, n'est-ce pas? Alors, à ce moment-là, Uranus a tout réclamé de ma Vénus. Alors là, mon cœur, Vénus, appelons ça mon cœur, ma puissance d'attache, ce qui me donne le bonheur d'échange avec la vie et de fusion avec les autres objets de la vie, ce qu'on appelle la planète qui donne le bonheur. Le mot bonheur est un mot qui demande tant de définitions. Mais sur le plan général humain, c'est ça. Eh bien, elle a senti où elle avait ce qu'elle devait servir. Elle a trouvé sa vocation. Et alors, il y a eu un virement positif sur le domaine uranien de ma nature, avec tout ce qu'il avait à exiger de ma Vénus, et d'autre part, à faire avec elle pour l'ensemble de mon temps. J'en ai un autre. J'ai un Jupiter de 3 du Capricorne, exactement quinconce à Neptune 3 Gémeaux. Malheureusement, façon de parler, mon Jupiter est en rétrograde toute ma vie, ou presque toute ma vie. Il n'est pas venu à me faire faire une fois. D'ailleurs, il est beaucoup plus lent. Et sa progression, même en direct, elle n'aurait jamais atteint le troisième degré du poisson pour me faire la quadrature à Neptune. Tout était trop beau. Ça n'existe pas dans une vie, une chose pareille. Simplement, le quinconce, que d'entre vous qui sont assez âgés pour avoir une progression d'une planète mineure sur la planète majeure, car il faut ici que l'aspect soit d'une majeure. Assurément, vous pourrez me dire, mais supposons que Vénus fût 17 balance et que l'Uranus fût 17 taureaux, qu'est-ce qui se serait passé? Ah, pour commencer, le thème nous dirait Uranus sert Vénus. Ça, c'est réglé. C'est réglé. Nous n'avons pas maintenant commencé à parler de nouveau de ce que c'est que la puissance uranienne, n'est-ce pas? De ce qu'il représente. Non. C'est un monde, n'est-ce pas? C'est un monde merveilleux. C'est le génie de l'homme, naturellement. C'est la crème de toute la race, ça. Bon, en chacun de nous. Bon. Mais alors il sert le cœur. Dans ces conditions, il servirait le cœur. Il faut pas qu'il. On ne veut pas dire qu'il l'aime. C'est plus que ça, car on ne peut pas servir avant d'aimer. D'abord on aime, ensuite on sert. Dans les facultés essentielles d'aimer et de servir, il se trouve que servir est une récompense maintenant qui vient de la vie du cœur. Le trigone est dépassé dans le quinconce. Dans un instant, en parlant un instant de la loi de cristallisation de l'âme, qui se développe comme un cristal et selon les lois de la cristallisation, l'astrologie n'est pas autre chose que ça, nous verrons que le quinconce représente l'aspect du diamant que l'âme humaine est appelée à devenir un diamant. Un diamant. Il passe du carbone ordinaire, du charbon ordinaire, et montant par toute la voie que lui impose les lois ou la loi de cristallisation, l'élément étant là, la réalité de la cristallisation, la géométrie éternelle du cristal, antérieure à sa forme manifeste, l'élément étant là, la loi s'en empare, la structure interne, la fameuse idée de Platon, elle s'empare des éléments et elle le transforme graduellement en un cristal. Nous sommes un élément, notre thème est un cristal en travail aboutissant un jour au diamant. Voilà, je vous lance ça comme une sujet de méditation. Ça vous prendra beaucoup de temps peut-être de vous rendre compte que nous sommes en train de nous développer exactement selon les mêmes lois que les lois qui développent les cristaux. Le symbolisme du cristal est une chose absolument différente. Voulez-vous ouvrir la fenêtre? Un peu trop chaud. Oui, vous avez raison. Je rappelle que la quadrature, ce qui est appelé le carré, ça c'est une construction géométrique qui impose une émergence. Parce qu'il s'agit ici de niveaux différents. C'est le fameux pas c'est le fameux escalier, c'est le fameux échelon. La quadrature n'est pas autre chose qu'un échelon. Elle n'est pas autre chose qu'un un escalier, qui a un décalage de niveau et qu'il faut passer d'un plan à l'autre. Voilà le carré. C'est ça le carré. Ce n'est pas autre chose que ça le carré. Donc, dans l'effort, c'est ça qui nous a donné nos muscles, par exemple. C'est ça qui nous a donné ce qu'on appelle notre caractère. Le caractère, c'est quelque chose qui est fait par cette chose en nous-mêmes qui sent tout le temps qu'elle veut, qu'elle doit passer d'un plan à un autre et qui ne peut pas s'attarder longtemps dans un plan quelconque. C'est le calvaire, ça. C'est le principe du calvaire. Le calvaire est une fonction, est une formule géométrique comme une autre. Il n'y a pas une chose dans le Nouveau Testament qui ne soit selon sa formule géométrique. Dieu géométrise. La géométrie, c'est le mot final, si l'on veut, pour l'intellect humain, de toutes les situations imaginables par lesquelles passe la nature humaine.